France Bleu Pays de Savoie. France Bleu.
Rencontre en montagne sur France Bleu.
Sylvia Depierre.
Bienvenue dans Rencontre en montagne. Tous les dimanches, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui aiment, qui survolent, qui grimpent, qui courent, qui écrivent la montagne. Notre invité aujourd'hui est une véritable encyclopédie vivante de la montagne et c'est toujours un privilège de le recevoir sur France Bleu. Il s'agit d'Yves Balu. Originaire de la Champagne, Yves Balu a fait l'essentiel de sa carrière professionnelle en tant qu'ingénieur au CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. Du côté de ses loisirs, après la voile, il découvre l'escalade à Fontainebleau en 1965 et ce sera le départ d'une grande histoire d'amour avec la montagne. Il a réussi les plus grande voie d'ascension, éperon Walker au Grand Jorasses, face est du Grand Capucin, aiguille verte par le couloir Whymper, pour ne citer qu'elle. En 1981, il quitte provisoirement le CEA pour devenir le monsieur montagne du ministère des Sports. Il restera dans ce monde de la politique pendant 10 ans et a œuvré pour la montagne avant de retourner au CEA. Ensuite, il découvrira le parapente, il deviendra moniteur, réussira des premières. Et puis surtout, Yves a constitué avec le temps un fonds documentaire important sur la montagne. Livres, gravures, affiches, cartes postales et a publié très tôt ses premiers articles. Puis ses livres, une vingtaine en tout. Il a reçu de nombreux prix littéraires. Le dernier en date est sorti aux éditions du Mont Blanc et il s'intitule La montagne sous presse, 200 ans de drame et d'exploits. Bonjour Yves Balu.
Bonjour Sylvia.
Comment vous est venue l'idée de ce nouveau livre? Est-ce que c'est le fait d'avoir accumulé beaucoup de choses à la maison?
Un peu mauvaise conscience parce qu'effectivement j'accumule depuis presque une cinquantaine d'années des documents que j'aime sur la montagne et puis j'essaye d'en faire quelque chose. Je me sens moins coupable d'avoir consacré un peu d'argent, de l'espace dans la maison, sous le regard un peu pas réprobateur, mais en tout cas un peu étonné de mon épouse qui supporte ça depuis très longtemps. Et donc quand je vois ces piles de journaux, je me dis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc je les prends, je les feuillette, journaux depuis le 18e siècle hein, jusqu'à Paris Match aujourd'hui, et qui racontent à leur façon l'histoire de la montagne. Et j'ai eu l'occasion effectivement de, non seulement d'écrire des livres, mais surtout de lire des livres de montagne, et je me suis rendu compte que c'est pas du tout le même regard qu'on porte quand on écrit un livre. On pose son écriture, c'est pour la postérité. Quand on écrit un article, c'est à la volée, c'est du consommable, et on se lâche beaucoup plus facilement. Donc, quand on se lâche au 18e siècle, au 19e siècle, au 20e siècle, avec le recul du temps, ça prend une certaine saveur, et je trouve ça rigolo. Plus, bien sûr, les illustrations, qui sont
très intéressantes. Il y a un sacré travail de recherche de documentaliste pour réaliser cet ouvrage, hein, Yves Balu.
Ah ben, la recherche, c'est une cinquantaine d'années. C'est-à-dire
c'est ça, c'est toute une vie.
Une vie pour trouver les documents. Après ça,
mais là, il fallait faire des choix.
Après ça, effectivement, le travail, c'est de passer en revue tout ça, voir ce qu'il y avait dedans réellement, concrètement les scanner, et puis après ça, d'organiser ça en disant qu'on va faire un bouquin. On l'organise comment ce bouquin? De quoi on parle? On va pas les prendre l'un après l'autre, ces journaux, voilà. Donc j'ai pris le parti de sélectionner un certain nombre de grands thèmes, les grands thèmes qui ont intéressé la presse depuis qu'elle parle de la montagne, les grands thèmes qui sont les accidents, les héros, les guides, les grands sommets, les femmes, etc.
Et on abordera quelques-uns seulement, on pourra pas tout aborder dans cette émission, mais avec plaisir on parlera des femmes et puis on parlera des drames aussi qui ont toujours fait la une de la presse. On verra comment ils ont été traités avec les années, on verra aussi l'importance qu'a eu Paris Match sur une célèbre affaire Vincent d'Henri. On en reparlera aussi dans cette émission avec vous, Yves Balu. Vous vous souvenez, vous, Yves, du tout premier livre de montagne que vous avez lu?
Oui, c'était Saussure, je crois. Parce qu'en fait, j'ai partagé ma vie pendant 2-3 ans avec un copain savoyard à Paris. Et donc, lui, il a été fouiné des bouquins de montagne sur les quais ou dans les librairies spécialisées. Je l'ai accompagné. Et j'ai trouvé que c'était intéressant, ces bouquins, d'autant plus intéressant que, dans le même temps, j'ai commencé à grimper. Donc je crois que le premier bouquin, c'était un tome, c'était pas complet, mais c'était un tome de Saussure, je crois. Je trouve ça rigolo.
Et vous l'avez gardé?
Non, vous ne l'aviez pas celui-là. Non, j'ai pas gardé parce que, entre-temps, j'ai trouvé l'édition complète.
Ah, voilà, vous avez mieux, entre-temps.
Oui, mieux.
Ça prend quelle place à la maison, l'univers d'Yves Balu et de la montagne? Plusieurs pièces?
Si mon épouse écoute cette émission, je ne veux pas vous avouer. Ça prend beaucoup de place. Ouais. Mais la place, on la trouve, vous savez.
Quand on veut, on peut.
Quand on veut, on trouve des murs. Il y a beaucoup de murs dans une maison, surtout la nôtre n'est pas toute petite, donc il y a des murs.
Ils
sont bien occupés, oui.
Yves Balu est notre invité dans Rencontre en montagne.
France Bleu, Pays de Savoie.
Fight to make ends meet. Keep some balance.
montagne sur France Bleu.
Écoutez, on est bien ensemble.
Yves Balu, l'historien de la montagne, est l'invité de Rencontre en montagne. Alors Yves, vous êtes né à Épernay, en Champagne, en 1943, dans une famille de 7 enfants. Vous êtes le 3e et vous avez été en internat très très jeune. Vous aviez seulement 9 ans. Ça n'a pas été simple pour vous, manifestement, puisque vous avez même été renvoyé de 4 établissements religieux. Ça, c'est des souvenirs difficiles.
Je vous dis de ne pas le dire, tant pis.
Mais je l'ai dit quand même.
Alors, j'étais un enfant turbulent dans une famille nombreuse. J'avais 5 frères et sœurs, j'en ai eu un 6e un peu plus tard. Et ma maman, qui était une toute jeune maman, était un peu débordée. Mon papa allait travailler à Paris. Et on m'a dit, si tu continues comme ça, tu seras pensionnaire. C'était la punition. Donc, à l'âge de 9 ans, on m'a mis dans une école religieuse, parce que dans ma famille, on avait des traditions. Et j'étais malheureux, quoi. Parce que d'abord, en plus, j'avais un an d'avance dans mes études, donc j'étais plus petit que la moyenne. Il fallait que j'apprenne à courir parce qu'il y avait des grands qui avaient un an de retard. Ça faisait deux ans de différence. Voilà, donc c'était pas rigolo. Je sais pas pourquoi, mais enfin, c'est probablement pour ça que j'ai continué à être insupportable à l'école comme j'étais à la maison.
Vous avez enchaîné les pensions.
J'ai enchaîné les pensions jusque la dernière qui était à Nancy. Là, je me suis calmé, je ne sais pas pourquoi, et j'ai terminé mes études dans cette école.
Et vous avez fait des études d'ingénieur, comme votre papa?
Ah oui, alors, sauf que mon papa, lui, c'était pendant la guerre, il n'a pas pu avoir de diplôme. Il a pratiqué le métier d'ingénieur, mais sans diplôme. Et donc, il a décidé qu'un de ses enfants devait avoir le diplôme. Donc, il m'a,
et c'était vous?
Oui, quand il est venu me chercher après mon bac à l'école, il m'a dit, je t'ai inscrit à l'INSA. Voilà.
Vous n'aviez pas le choix?
Non, pas vraiment. Au bout d'un an, je me suis dit, mais c'est pas ça que je voulais faire, je voulais être chirurgien. Mais j'ai pas eu le courage de me dire j'ai perdu un an, donc j'ai continué. Et puis enfin, finalement, ça m'amusait bien. Quand
finalement, vous
bien.
Avez fait votre carrière au CEA. Ouais. Et puis vous avez fait de la voile aussi, très tôt, comme votre papa aussi. Il là dictait encore, un peu vos choix.
Là encore, mon papa qui m'a guidé, disons. Voilà, il aimait beaucoup la voile. Je la connaissais pas du tout, parce que Épernay, c'était loin du bord de la mer. Et donc, il a acheté un jour un petit dériveur qui m'a mis à disposition, et ça a été pour moi une grande passion. J'ai fait beaucoup, beaucoup de voiles et beaucoup de régates, et j'ai adoré ça.
Et puis vous découvrez l'escalade à Fontainebleau, dès 1965, et là c'est une révélation, Yves.
C'est une double révélation, parce qu'en fait, j'ai découvert l'escalade à Fontainebleau par l'intermédiaire d'un copain qui avait une sœur qui était ravissante.
Ah, en plus.
Voilà. Et donc, dans la famille de ce copain et de sa sœur, on admirait les montagnards, les grimpeurs.
Raison de plus de grimper.
J'ai fait les efforts désespérés pour devenir admirable.
Et donc, ça vous a rapproché de la jeune fille?
Ça m'a rapproché, tout à fait. Et depuis 51 ans, on m'épouse.
Ah oui, d'accord. Ah oui, ok.
Absolument, oui.
Une belle histoire.
Une belle histoire. Et donc, j'ai démarré comme ça à Fontainebleau, l'escalade. Et j'ai adoré l'escalade. Après, donc, c'est le cheminement classique, la progression classique, Fontainebleau. Ensuite, les falaises d'escalade dans Lyon, le Saussois, à Frères, en Belgique, etc. Et puis, en lisant les bouquins de montagne, l'idée est devenue naturellement de dire si on allait voir un peu à quoi ça ressemble, le Mont Blanc, enfin, les aiguilles de Chamonix, etc.
Et c'est là que donc, vous basculez dans le monde de l'alpinisme et que vous réalisez
quelques belles voies. C'est une époque où j'étais bien entraîné. Alors, quand on s'entraîne à Fontainebleau, le niveau de difficulté, il est bien supérieur à ce qu'on trouve en montagne. Parce que c'est des petits rochers de maximum 10 mètres de haut. On peut sauter sur le sable si ça marche pas. Donc on peut réessayer 10 fois. Donc on essaie des choses très compliquées. Et quand on va en montagne, on a d'autres problèmes. Parce qu'il faut être capable de s'orienter, de grimper dans la durée, de résister à l'altitude éventuellement, au stress. Et les mouvements sont parfois un peu différents. Les mouvements d'opposition, choses comme ça qu'on trouve pas beaucoup à Fontainebleau. Mais par contre, quand il y a des mouvements délicats, sur des dalles en particulier, on est très à l'aise en montagne.
Alors vous envisagez même à l'époque, comme ça, le diplôme de guide, que finalement vous ne passerez pas, car vous n'avez pas envie d'en faire votre métier. Vous voulez que ça reste votre passion.
L'idée m'est traversée l'esprit de dire, tiens, si j'avais le diplôme de guide,
voilà.
Parce que ça vous pose quelqu'un avec un diplôme de guide, c'est respectable. Et puis bon, je ne l'ai pas passé parce qu'il fallait quand même y consacrer du temps, et j'avais une famille, un métier, et donc je ne l'ai pas fait, mais j'y ai pensé.
Qu'est-ce qui vous plaît tant dans l'alpinisme, Yves? Qu'est-ce qui fait que vous avez accroché autant sur cette activité qui est quand même engagée?
C'est une question qui est un peu embarrassante parce que je reviens un petit peu en arrière. Les premiers alpinistes, on ne leur a pas posé la question parce qu'ils avaient détourné le sujet. Ils avaient dit, on va en montagne, notamment Saussure, je vais en montagne pour la science. Après ça, on allait pour l'exploration, pour dire on est le premier à avoir gravi tel sommet ou telle voie. Ensuite, c'est au 19e, c'était uniquement, quasiment exclusivement masculin, l'alpinisme. Et les hommes qui ont fait ça, ils ont été assez astucieux. Ils ont associé un certain nombre de valeurs spécifiquement masculines. Le courage, la terre méritée, etc. La virilité. Et donc, quand ils rentraient chez eux le soir, ils étaient des héros, ils étaient admirables. Mais maintenant, on n'est pas tellement admirables. D'abord, les filles font ça aussi bien que nous, maintenant. On est obligé d'admettre qu'on s'amuse en montagne. On a mis longtemps, très longtemps, les alpinistes ont mis très longtemps à dire...
À l'avouer.
Ah oui, ouais. Quand on regarde les livres d'histoire ou les journaux, on s'aperçoit qu'ils ont toujours trouvé des justifications, plutôt que de dire, mais
ça juste me plaît. J'ai envie, ça me plaît.
Ça me plaît. Alors, on peut avoir envie d'aller en montagne, et pourtant avoir peur.
Ça n'empêche pas.
Pas contradictoire du tout. On peut avoir peur du vide, mais vaincre cette peur du vide, parce qu'on aime grimper, on aime résoudre à chaque décimètre, chaque mètre, un problème, dire comment je vais attraper cette prise, comment je vais gravir cette face, cette éperon, etc. Ça, c'est passionnant.
Yves Balut est notre invité et on parle de montagne, vous l'aurez compris.
Écoutez, l'été sur France Bleu Pays de Savoie, on est bien ensemble. France Bleu.
On ne change pas, on met juste les costumes.
Avec France Bleu.
Faites de belles rencontres en montagne.
Il connaît l'histoire de la montagne comme sa poche. Alpiniste, parapentiste, écrivain, Yves Balut s'est aussi investi politiquement pour la montagne. Alors ça démarre en 1981. Yves, vous allez devenir le monsieur montagne du ministre des Sports, qui était à l'époque Edwige Avis. Comment ça s'est passé? On est venu vous chercher, Yves.
J'avais commencé à écrire quelques articles sur la montagne. On avait une connaissance commune, quelqu'un qui connaissait Edwige Avis, et qui a appris que Edwige Avis cherchait un conseiller montagne elle lui a suggéré mon nom. Et donc, un jour, dans mon laboratoire, j'ai eu un coup de téléphone du secrétariat du ministre qui m'a proposé un rendez-vous. J'ai acheté une cravate. Et puis, je me suis rendu au rendez-vous. Et je dis à Edwige, ne vous inquiétez pas, je connais tout, la montagne, etc. Ne inquiétez pas, enfin, bref. Mais ce que je ne connaissais pas du tout, c'était ce monde-là. Ouais. C'est-à-dire comment on se comporte quand on est conseiller d'un ministre. Et puis, 15 jours après, que je suis arrivé dans ce ministère, elle m'a envoyé à Épinal pour faire un discours. Comme ça. Pour la présenter. Bon, alors j'ai fait mon discours. Et du reste, après, j'ai fait beaucoup de discours, pas pour moi, plutôt
vous avez
pour
écrit
elle.
Pour d'autres, ouais.
Pour d'autres. Je me souviens, par exemple, un jour, j'avais préparé pour Edwige un beau discours. C'était pour l'inauguration du Conseil supérieur de sport de montagne à Chamonix. Et donc, j'ai fait un beau discours avec des citations, enfin, un truc très, très élaboré, très littéraire. J'étais fier de moi. Et il se trouve que ce jour-là, j'étais là, quand elle faisait son discours, j'étais dans le fond de la salle, et j'entendais déclamer du Balu, j'étais très fier de moi. Puis à un moment donné, elle s'est arrêtée, elle dit, ah, je reconnais bien la patte d'Yves Balu, là, qui m'a préparé ce discours. Et je me suis rendu compte tout d'un coup que j'avais fait un truc pour moi, pas pour elle. C'était idiot, parce qu'elle n'était pas censée connaître, avoir toute ma culture en montagne.
C'est ça.
Donc ça sonnait faux. Et depuis, ça m'a servi de leçon. Avec Edwige Avis, donc ça durait 5 ans. C'était formidable parce que j'étais le spécialiste de la montagne, elle me faisait confiance, et donc tout ce que je proposais, elle l'acceptait.
Alors je vais essayer, hein, je ne sais pas si je vais être exhaustive, mais de faire un petit peu le tour des choses que vous avez faites. Vous avez créé le Conseil supérieur des sports de montagne, vous avez lancé les journées nationales de l'escalade et de la randonnée, vous avez réformé le monitorat de ski, vous avez créé le monitorat d'escalade, on y revient dans quelques instants, vous avez financé la création des premières structures artificielles d'escalade, ouvert l'escalade à la compétition, vous avez même accompagné la première équipe de France d'escalade en URSS avec Patrick Edlinger à l'époque, vous avez participé à des missions de secours en montagne avec le PGHM, vous êtes un des rédacteur de la loi montagne en 85 et vous avez réussi à faire admettre la gratuité du secours en montagne. Vous n'avez pas chômé pendant ces 10 ans, Yves Balu. J'aimerais qu'on revienne sur la création du monitorat d'escalade parce que ça n'a pas été une mince affaire. Racontez-nous pourquoi ça a été si difficile.
D'abord, je vais vous proposer quelque chose. Vous pourrez écrire ma biographie un jour parce que vous êtes...
Très bien, je vais être embauché.
Vous êtes parfaitement renseigné. Alors, le monitorat d'escalade, c'était compliqué. Pourquoi? Parce que à l'époque, pour devenir guide, il fallait obligatoirement être accompagnateur en moyenne montagne. Autrement dit, c'est par la randonnée, obligatoirement, qu'on arrivait à devenir guide. Et moi, j'ai proposé une chose suivante, c'est qu'il y ait deux voies d'accès à la profession de guide qui correspondent à la pratique, c'est-à-dire soit accompagnateur en moyenne montagne, soit moniteur d'escalade. Pour ça, il fallait créer un moniteur d'escalade qui reconnaît cette pratique et qui donnait droit à un accès à la profession de guide. C'était très compliqué parce que les guides ont vécu ça comme une espèce de concurrence, en se disant, ils vont être en concurrence avec les moniteurs d'escalade. Sauf que, dans ce que j'ai proposé, et ce qui s'est fait du reste, c'est que les guides étaient moniteurs d'escalade. Même ceux qui
étaient incapables de
passer du 5 sup. Beaucoup de guides n'ont pas un très haut niveau d'escalade, c'est pas un problème. Mais ils avaient quand même le diplôme. Ça a été très compliqué, c'était des discussions sans fin. Avec mon ami Roger Canac, qui était à l'époque le président du syndicat des guides, on passait la nuit, on se mettait d'accord. Et puis, il m'appelait 3 jours plus tard en me disant, Yves, ça va pas. Pourquoi? Ben parce qu'ils sont pas d'accord. Les guides, ils étaient 1200 à l'époque, c'est 1200 individualités, donc il fallait négocier avec 1200 personnes. Donc c'était très compliqué, on a fini par y arriver, mais j'ai même été caillassé, hein, ma voiture a été caillassée. Et encore maintenant, il y a des guides, vieux guides qui ne portent pas dans leur cœur. Et en plus, les guides, on ne leur enlève rien, parce que toutes les prérogatives des moniteurs d'escalade, ils les gardent. Mais bon, je ne suis pas bien fait comprendre, c'est de ma faute.
Et puis vous avez accompagné donc, la première équipe de France d'escalade en URSS.
Là encore un débat, les soviétiques, depuis des années, faisaient des compétitions d'escalade. Il proposait, par l'intermédiaire du ministère, que les Français viennent se mesurer à eux. Il y avait un débat en disant, mais nous, les grimpeurs, les compétitions, on n'en veut pas. Un manifeste a été signé par 19 des meilleurs grimpeurs français, en disant, nous ne participerons jamais à une compétition d'escalade. Sur les 19, il y en a 2 qui n'ont pas participé à une compétition d'escalade. Bon. Et Catherine Destivelle, à qui j'en parlais récemment, qui faisait partie des signataires, et qui a gagné un certain nombre de compétitions, m'a dit, mais Yves, tu sais pas la vraie raison pour laquelle on a signé. C'est parce qu'on avait peur de la concurrence. Alors j'ai eu le privilège extraordinaire d'accompagner des gens comme Patrick Edlinger, Jacky Konoff, enfin, c'est les meilleurs grimpeurs de l'époque. Et en plus, qui ont découvert des choses, parce que à l'époque, les soviétiques, les compétitions, c'était des voies pas très très difficiles. Vous allez comme des fous, ils grimpaient en courant. Et les Français faisaient des voies extrêmement difficiles, mais à leur rythme. Donc là, ils ont pas gagné. Mais après ça, on a invité les soviétiques chez nous.
Et là, c'est nous qui avons gagné.
Ils n'ont pas gagné du tout. Et du coup, ils ont remonté leur niveau de difficulté. Maintenant, les compétitions sont de très très haut niveau. Voilà.
Alors, ça a duré 10 ans, cet investissement en politique pour le monde de la montagne. Et puis ensuite, vous êtes revenu au CEA et vous êtes revenu par la même occasion dans la région, du côté de Grenoble.
Alors, je suis venu d'abord à Paris où j'ai pris en charge la communication interne du CEA parce que je ne pouvais plus faire la recherche après 10 ans d'interruption. 2 ans plus tard, un copain qui était directeur du centre de Grenoble qui a insisté beaucoup pour que je le rejoigne. Et je l'ai rejoint. Je me disais, est-ce qu'on peut quitter Paris? Et puis, je me rends compte, la question qui se pose maintenant, est-ce que je pourrais retourner à Paris?
C'est ça la question.
Oui, j'ai la réponse.
Yves Balu est sur France Bleu.
France Bleu. France Bleu, partenaire de Le Temps est assassin, la série événements sur TF1. Clotilde revient en Corse 25 ans après l'accident qui a coûté la vie à son frère et ses parents.
S'il y avait une chance sur 1 million qu'elle soit encore vivante, est-ce que je devrais pas tout faire pour la retrouver?
Avec Mathilde Seigné, Jennifer Bartoli, Fred Testo, Thierry Godard, Grégory Fitoussi et Katrina Murino. Le Temps est assassin, d'après le best-seller de Michel Bussy, jeudi 29 août sur TF1 à 21h05, avec France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr. Pour ranger vos vêtements, découvrez nos étagères pas stables du tout. Solides à première vue, dès que vous poserez une pile de vêtements dessus, elles tomberont immédiatement et vous n'aurez plus qu'à tout reconstruire.
Sinon, chez La Paire, la qualité, ça ne coûte pas plus cher. Pendant la rentrée des tout petits prix jusqu'au 16 septembre, le dressing Lima est à 65€ au lieu de 79,90€. La Paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie.
Conditions sur lapaire.fr.
France Bleu, pays de Savoie.
France Bleu. What am I supposed to do without you? Is it too late to pick the pieces up? Too soon to let them go.
Est-ce que tu gardes en toi mon visage? Et dans une boîte toute notre histoire, la clé n'est plus qu'un mirage. Reviens vers moi, vivons un rêve d'enfant. Reviens comme
take down my tail.
Sur France Bleu,
Sylvia Depierre.
Écrivain spécialisé dans l'histoire de l'alpinisme, il a écrit une vingtaine de livres sur l'histoire de la montagne. Yves Balu est dans Rencontres en montagne. Alors Yves, vous avez reçu le Grand Prix de la littérature sportive pour votre livre Les Alpinistes en 1982. C'est un de vos premiers livres d'ailleurs, Yves.
Le deuxième livre.
Le deuxième. Et vous êtes, à ce titre, le premier auteur de montagne depuis Frison Roche, à l'époque, à avoir été primé par l'Association des écrivains sportifs. Et j'aimerais que vous nous racontiez la remise de ce prix, car vous vous êtes retrouvé à écrire votre propre discours, mais aussi à écrire le discours de celui qui allait vous remettre le prix. Ce qui n'est pas banal. J'aimerais que vous nous racontiez ça, Yves.
Alors, c'était un prix littéraire qui attirait bien du monde, qui était remis donc, dans les grands salons du ministère des Sports, par le ministre des Sports. Et à l'époque, c'est le ministre des Sports, c'était Alain Calma. Et donc, je n'étais pas à son cabinet, j'étais à la direction des Sports, mais j'avais un bon copain qui était à son cabinet. Alors, on m'a annoncé que j'allais avoir le prix. J'étais assez content. C'est mon deuxième bouquin. Je n'étais pas gavé de prix encore. Je ne toujours pas, du reste. Et donc, on m'a expliqué que ça se passera comme ça. Puis, il faudra répondre. Il y aura un discours du ministre. Il faudra répondre. J'avais préparé ma réponse. Elle était prête depuis longtemps. Et puis, 3 jours avant la remise du prix, je reçois, par la voie hiérarchique, une commande. Élément de discours pour 2 points. Remis du prix, Grand Prix de la littérature sportive. Bon, allons-y. Je prépare le discours. Et puis, je me dis, dans le fond, ces discours, c'est toujours un peu laudatif, c'est toujours un peu convenu, puisque c'est moi qui l'écris, je fais une critique. Je vais me critiquer, ça va être rigolo. Et donc, je cherche une critique, si possible, astucieuse. Et dans ce livre, Les Alpinistes, je parle des alpinistes dans les Alpes. Donc, je ne parle pas d'Herzog, qui est devenu célèbre en Himalaya, mais pas dans les Alpes. Et donc, je me dis, un ministre de gauche pourrait, s'il est un peu élégant, me dire, Monsieur Balu, est-ce que je peux vous faire un reproche quand même ? Je n'ai pas trouvé le nom de mon prédécesseur Maurice Herzog dans votre livre. Donc j'ai écrit ça. Et alors, le copain qui était au cabinet m'a raconté que le matin, quand Alain Calma a découvert son discours...
Il ne savait pas, hein, bien sûr, que c'était vous qui l'avez écrit, bien sûr.
Non, pas. On signe jamais les discours qu'on prépare pour les autres. Et donc, il dit au copain, vous connaissez bien Yves Balu ? Le copain dit, oui, je connais. Et j'ai sûr que je peux dire ça, il ne va pas te vexer si je dis ça. Le copain qui était au courant dit, ne vous inquiétez pas. Et alors, il a lu à la virgule près le texte que je n'avais pas parlé, sauf il a ajouté quelque chose. Votre livre que j'ai lu, virgule... Oui, que j'ai bien lu. Il a rajouté ça. Donc, je crois qu'il l'avait lu. Et je pense que toute l'Assemblée qui était là, dû dire, il est bien ce ministre quand même qui réhabite un peu son prédécesseur, c'est bien.
Et si parmi tous vos livres, Yves Balu, je vous demandais de nous en conseiller 3, lesquels vous choisiriez ?
Sylvia, alors, si vos éditeurs peuvent acheter les 20...
ça vous arrangerait ? Bien non. Compris.
Alors, par contre, je vais quand même dire à vos éditeurs, parce que je crois que vous ne l'avez pas encore précisé, que j'écris soit des livres documentaires, d'histoire, des livres sérieux, soit des romans.
Oui, c'est vrai, vous avez fait les deux.
Voilà. Si vos auditeurs aiment les romans, les polars, les thrillers, pour l'instant j'en ai écrit 3, le quatrième est en cours d'écriture. Le dernier, c'est 100 000 $ pour l'Everest, dernier roman. Sinon, pour les gens sérieux qui veulent apprendre quelque chose, alors pourquoi pas Le naufrage de Mont-Blanc, que j'ai écrit il y a 20 ans, qui a été réédité, qui va même probablement faire l'objet d'une adaptation télé. Donc c'est un roman qui a marqué, si vous voulez. C'est sur l'affaire Vincent Drouet-Henry.
On aura peut-être l'occasion. Oui, on va en parler tout à l'heure, justement.
Et sinon, je pourrais conseiller le dernier, éventuellement, La Montagne sous
presse. La Montagne sous presse, 200 ans de drame et d'exploits. Paru aux éditions du Mont-Blanc, les éditions dirigées par Catherine Destivelle. On va en parler, justement, de ce livre avec vous dans quelques instants, Yves Balu. Et dans ce livre, vous évoquez ce fameux naufrage au Mont-Blanc avec l'affaire Vincent-Henri, qui a eu des conséquences aussi sur l'histoire du secours en montagne. On en parle dans quelques instants avec vous, Yves Balu. France Bleu.
Les éditions Radio France présentent... Chronique de l'espace, un livre de l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet.
Le 21 juillet 1969, un homme pose pour la première fois le pied sur la Lune. Il s'appelle Neil Armstrong.
That's one small step for man.
C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité.
Découvrez la fabuleuse épopée de l'exploration spatiale dans le livre Chronique de l'espace de Jean-Pierre Luminet, une coédition France Inter.
Cet été avec France Bleu,
faites de belles rencontres en montagne.
C'est toujours un plaisir de l'entendre nous raconter l'histoire de la montagne. L'historien Yves Balu est notre invité sur France Bleu. Alors, vous comptez dans votre dernier livre, La Montagne sous presse, les accidents, les drames, les tragédies qui ont fait la une des journaux. D'ailleurs, est-ce que ces tragédies ont toujours fait la une des journaux depuis aussi longtemps qu'on remonte
depuis... Depuis la première grande tragédie, 1865, à la conquête du Cervin, par un Anglais, Wimper, qui était donc le chef de cordée, disons, d'une cordée trop nombreuse. Et à la descente, il y a un accident terrible. Quatre membres de la cordée ont glissé, sont morts. Et Wimper est resté seul avec ses deux guides suisses. Donc il a dû faire face, à ce moment-là, à des questions qu'on se posait pour la première fois. Parce qu'on découvrait l'alpinisme, on découvrait les dangers de l'alpinisme. Et je me souviens du reste d'une citation du Sunday Times de l'époque qui disait « Pourquoi gaspiller le meilleur sang d'Angleterre à gravir des pics ?» Et quand on regarde ça avec le recul, gaspiller le meilleur sang d'Angleterre, c'est quelque chose qu'on pourrait plus dire maintenant. Ça veut dire un meilleur sang, il y en a qui est meilleur que l'autre. Or, il se trouve qu'à l'époque, ceux qui faisaient de la montagne, c'était les aristocrates.
C'est la première tragédie de montagne dont on parle.
Et puis après ça, je dirais presque à l'apogée, parce que je ne crois pas qu'il y a eu depuis cette affaire Vincent Dorion en 56, un autre accident qui a autant eu de retentissement médiatique. Autant. Paris Match, on a fait 4 numéros, dont 2 couvertures.
J'aimerais bien que vous nous racontiez et que vous nous remémoriez cette histoire du sauvetage qui va tourner à la tragédie de Vincent Don et Henri. Donc on est en 1956, Yves.
Deux grimpeurs, un parisien et un bruxellois, envisagent donc de faire l'ascension du Mont Blanc en hiver et par la Brinve, qui était la face italienne, qui est plus raide que la face chamoniarde. Donc en hivernal, le Mont Blanc et la Brinve, c'est un exploit considérable. Ils se lancent là-dedans avec une mauvaise stratégie qui consiste à dire on va y aller avec tout l'équipement qu'il faut, comme ça si jamais on a du mauvais temps, on montera la tente, on se fera des boissons chaudes, etc. Ils vont prendre le mauvais temps le soir de la première journée d'ascension, ils rencontrent Bonatti qui va les sortir d'affaires le lendemain matin, qui va leur passer une corde et les aider à monter jusqu'à l'endroit où il n'y a plus qu'à marcher, 400 mètres, mais marcher jusqu'au sommet du Mont Blanc. Là, ils vont se séparer, et pour une raison qu'on ne connaît pas, ils vont descendre directement sur Chamonix, au lieu de passer par le sommet du Mont-Blanc, comme c'était prévu, comme l'a fait Bonatti. Et là, ils vont se trouver coincés sur un espèce de gros serin, qu'ils ne peuvent plus descendre, c'est trop raide, ils ne peuvent plus monter parce qu'ils sont trop fatigués, donc ils s'arrêtent. Et les alpinistes qui sont immobiles en montagne, c'est préoccupant. Donc on s'aperçoit qu'ils vont mal, et dans la vallée de Chamonix, c'est le bazar total. Les gens se disputent en disant, alors les guides disent, mais ces jeunes qui se fichent de nous tout le temps, on a autre chose à faire que d'aller risquer nos vies. Les copains disent, mais aidez-nous à aller le chercher. Les parents arrivent sur place, les parents de Jean-Vincent Don, qui connaissent rien à la montagne, on les voit dans les photos de l'époque, avec elle à son sac à main et ses chaussures de ville, lui avec son béret, enfin, ils ne comprennent rien à ce qui se passe, et ça va durer presque une semaine, ça va durer 5 jours et demi. Tous les matins, on se dit, ils sont forcément morts. Attendez, moins 30 degrés, ouais. Le cul sur la neige, on ne tient pas une nuit. Et tous les matins, ils bougent encore, ils sont encore vivants. Le patron de l'école de haute montagne, le commandant Legal, dit, bon, bah, écoutez, si vous voulez que je m'en occupe, je m'en occupe, mais foutez-moi la paix, c'est moi qui vais organiser ça. Et dit, on va envoyer des sauveteurs en hélicoptère, exclusivement. Donc, on ne va pas y aller par voie terrestre. Donc, il me faut 7 heures à peu près pour faire les opérations, etc. Alors, les 7 heures, il ne les a pas, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, etc. Et on attend, jusqu'à ce qu'on dise, bon, bah, allez, on y va. Dans des conditions un peu difficiles, il y a 2 gros hélicoptères américains, Sikorsky, et celui qui était censé aller les chercher avec donc 2 pilotes et 2 guides, se crache à 20 mètres d'eux. Ils sont encore vivants. On prend des photos, on les met dans la carlingue de l'hélicoptère, on leur dit on va revenir vous chercher, on va les mettre les pilotes à l'abri à l'observatoire Valo qui est à 2 heures de marche, on va revenir vous chercher. En fait, on n'est jamais revenu les chercher. Ça a eu un tel impact sur l'opinion publique que dans la foulée, on a pris conscience que le secours en montagne, c'était pas un truc d'amateur, un truc de solidarité, c'était quelque chose qu'il fallait assumer au niveau de la collectivité. Et donc l'État a décidé de créer une structure de secours en montagne, qu'il a confié à la gendarmerie, le peloton gendarmerie de haute montagne, qui s'est installé à Chamonix, il y en a eu d'autres après, qui avait des gens qui étaient formés pour ça, qui étaient payés pour ça, qui étaient consacrés à ça, et avec des moyens comme l'hélicoptère. Et ça a sauvé bien, bien, bien des vies grâce au drame de Vincent et Henri, qui, je le précise quand même, n'ont pas survécu. Hein. Ils sont morts dans la carcasse de l'hélicoptère.
Ouais, ils n'étaient déjà pas en très bon état.
Ils étaient en mauvais état. Ouais, et 3 mois plus tard, quand on a été chercher les corps, on a trouvé Vincent Don là où on l'avait installé dans l'hélicoptère. Et François-Henri, on a cherché. On a fini par le trouver.
Il avait bougé alors.
Agrippé à la porte de sortie de l'hélicoptère. Il est mort en essayant de sortir. Probablement pour dire, écoutez, mon copain est mort maintenant, moi je suis toujours vivant, venez me chercher. Il n'a pas eu la force de sortir complètement.
C'est une histoire incroyable, hein, qui a été suivie jour après jour par la presse, tous les médias étaient dans Chamonix.
Tous les médias, oui. Et à la fin, dans les archives de l'INA, on a Roger Couder, qui est devenu un journaliste très connu après, notamment pour le rugby, etc. Roger Couder, qui était jeune journaliste, qui survole en avion et qui dit... en direct à la radio, j'enlève mon casque et je salue Vincent Don et Henri au nom de la France. C'est un drame national. Je reproduis dans le livre une photo où on voit les six guides. Le titre de l'article, c'est « Deux moribonds valent-ils 17 orphelins ?» Vous imaginez un peu, quand les parents vont s'endombrer ça dans la gueule, « Deux moribonds valent-ils 17 orphelins ?» Or, la photo, c'est un trucage. Il y a les six guides, bien sûr, mais les gamins, c'est les gamins qu'on a été chercher à la sortie de l'école pour poser. Donc c'est une photo complètement bidon.
C'est incroyable.
Photo bidon.
Et il y a une autre anecdote aussi que vous racontez sur l'affaire Vincent Don-Henri, c'est qu'il y a des journalistes qui sont allés prendre en photo la maman d'un des deux, je ne sais plus, dans Chamonix, en disant « Ça y est, vos enfants ont été sauvés. »
Madame Vincent Don, oui.
Voilà, juste pour prendre la photo, au cas où on arrivait à les sauver après pour avoir la photo. C'est incroyable.
Et après ça, ils sont perdus et donnent une photo. Ils avaient les deux photos.
Lionel Terray écrit « J'accuse ».
Il accuse. Il était furieux.
Il pense qu'on pouvait sauver les victimes par voie terrestre.
Oui, que ses collègues de la compagnie, parce qu'il faisait partie de la compagnie des guides de Chamonix, et il était parti 3 jours, il revient et il dit « On n'a pas bougé ». Mais c'est pas possible, il n'a pas bougé. Il était furieux.
Vous découvrez tout ça dans les livres d'Yves Balu, qui est notre invité dans Rencontre en montagne.
France 2, demain soir, à l'intérieur. Un meurtre dans une clinique psychiatrique, la première enquête d'une jeune flic.
Si vous pensez que le coupable est parmi nous, ça veut dire qu'en fait, il est dans cette pièce en ce moment même.
Ils sont tous suspects et chacun a sa vérité. Votre nouvelle série à l'intérieur, dès demain soir à 21h05 sur France 2.
Cet été sur France Bleu,
vivez de belles rencontres en montagne.
Son dernier livre s'appelle « La montagne sous presse, 200 ans de drame et d'exploits ». Il est paru aux éditions du Mont Blanc, maison d'édition dirigée par l'alpiniste Catherine Destivelle, qu'on retrouve aussi dans le livre, bien évidemment. Yves Balu est avec nous sur France Bleu. Et dans votre livre, Yves, tout un chapitre est consacré aux femmes, les femmes qui ont été très longtemps tenues à l'écart de la montagne, quand même.
Ah oui, les pauvres, elles devaient rester à la maison, préparer la soupe pour le soir.
Ouais.
Et accueillir le héros à son retour d'expédition.
On disait même, alors j'ai lu ça, que les plus hautes autorités médicales prétendaient que la haute montagne faisait courir un danger aux organes de la femme. En gros, on prétendait qu'elle pouvait devenir stérile, si elle allait en montagne.
Je vous cite le médecin en question. Le danger que courent les dames à opérer des marches forcées au lieu d'une atmosphère glaciale s'explique facilement. L'action du froid sur toute la périphérie du corps repousse le sang à l'intérieur et congestionne les principaux organes. La fatigue venant s'ajouter à la congestion de l'utérus détermine l'hémorragie. Un autre médecin assistant à la version faite au retour de l'ascension d'une des dames susnommées s'est exprimé ainsi. Le vrai prix de cette étrange steeplechase pour les jeunes femmes qui le courent ne peut être que la stérilité. Ça s'opposait à une autre citation du XVIIIe siècle à propos des femmes de Chamonix. Les femmes, ces femmes y sont à Chamonix ce qu'elles devraient être partout. 2 points, laborieuse, douce, honnête, sensible et féconde. Voilà tout un programme.
Tout un programme. Alors elles se sont battues quand même, les femmes.
Elles se sont battues, et c'était pas facile parce que quand bien même elles décidaient d'aller en montagne, elles devaient garder l'habillement.
C'est ça, elles devaient rester classe avec...
De décence.
C'est ça, le chapeau, la grande robe.
La grande robe. Donc elles pratiquaient ce qu'on appelait le on and off, c'est-à-dire elles montaient au refuge
avec la robe,
et au refuge, elle se changeait. Les guides, c'est pas grave, les guides, bon, voilà.
Ça devait pas leur déplaire en même temps.
Oui, enfin bon. Et en redescendant, elle remettait la robe. Et quelquefois, il est arrivé une fois ou deux que la robe avait disparu, donc on a envoyé un guide chercher une autre robe à l'hôtel de Chamonix pour la remonter, pour que la dame arrive descente. Et les premières skieuses en robe, quand on tombe dans la neige, à l'époque, ça arrivait qu'on a un début, et qu'on se trimballe après ça dans ses atours des paquets de neige, c'est pas très drôle. Je me souviens, j'ai une carte postale de Marie Marvin, qui est une pionnière notamment de l'aviation, du ski, etc. C'est marqué skieuse costumée en homme. Elle avait un pantalon.
Alors on peut lire effectivement à l'époque dans la presse des propos très sexistes, notamment lors des premières ascensions féminines du Mont Blanc. On peut lire notre orgueilleux Mont Blanc doit se sentir singulièrement humilié.
Oui, peut-être de vous dire que c'était Henriette d'Angeville qui l'a humilié. Elle n'a pas du tout apprécié ce commentaire.
J'imagine.
Elle a réagi dans la presse, oui.
Alors, d'ailleurs, qui sont les femmes qui marquent le début de l'alpinisme au féminin en France? C'est Marie Paradis, la toute première, en fait.
Oui, mais elle n'a pas fait exprès.
Oui, elle n'a pas fait exprès. Enfin, en gros, on lui a dit qu'il fallait qu'elle y aille, on l'a emmenée.
Viens, Marie, on t'emmène.
Mais elle n'a pas bien compris ce qu'elle faisait,
pas du
et pourquoi
tout,
elle
faisait. Elle a rien compris, elle dit m'emmener là-haut, c'était tout blanc en bas, tout noir en haut, j'ai rien compris. Et, oui. Et puis, par contre, en 1838, c'est Henri d'Angeville qui, elle, a décidé de faire l'ascension du Mont Blanc. Elle s'est préparée, elle a enduré tous les colibets, etc. Et après ça, Elle a dit, je suis la fiancée du Mont-Blanc. Elle est restée toute sa vie fiancée du Mont-Blanc. Elle a même précisé, ah, quel bonheur de n'être éprise que de la tête et pour un amant glacé. Tout un programme.
C'est beau. Ce milieu de la montagne, il est resté longtemps, un milieu un peu machiste.
Oui, oui, bah, l'Alpine Club, le club alpin donc anglais, les femmes n'ont pas le droit d'en faire partie, par exemple. Hein. Et dans beaucoup de clubs alpins, il a fallu un certain temps pour que les femmes puissent y soient admises. Et en montagne, bien sûr, c'était pareil. Donc il y a des femmes qui ont commencé à dire, je veux aller en montagne, évidemment avec un guide.
Un homme.
Mmh. Puis il y a des femmes qui ont dit, on va y aller entre nous. C'était déjà beaucoup plus audacieux. Notamment Micheline Morin, Alice Damen, dans les années 1930. Et puis après ça, il y a des filles qui ont été en montagne, à l'égal des hommes, c'est-à-dire qui étaient, rendez-vous compte, aussi bonnes, voire meilleures que les hommes.
Incroyable.
Catherine Sivel, par exemple, qui a ouvert des voies, Lynn Hill, l'américaine, choses comme ça. Beaucoup d'hommes ne sont pas capables de les suivre.
Puis après, il y a eu les premières femmes guides aussi, mais ça a mis du temps. Hein.
Ça aussi, c'est pareil, c'était une révolution. Ouais. Le règlement n'interdit pas à une femme de se présenter au diplôme de guide. Par contre, après ça, qu'elle soit admise dans une compagnie des guides, notamment celle de Chamonix, c'est autre chose. Donc, c'est Sylviane Tavernier qui était la première femme guide admise à la compagnie des guides de Chamonix. Maintenant, il y en a d'autres.
Et aujourd'hui, ça s'est bien féminisé. On ressent moins de machisme dans ce milieu-là, Yves, d'après vous?
Alors, je ne sais pas, dans le milieu de la montagne, je crois que le machisme, c'est plus tellement tendance, disons. Mais je ne suis pas sûr qu'un client qui cherche un guide, entre un homme et une femme, ne va pas se dire encore, mais peut-être que la femme est moins costaud pour me retenir si jamais je tombe, je ne sais pas quoi.
Il y a peut-être encore des idées reçues.
Peut-être encore quelques hésitations, c'est possible.
Le combat n'est pas terminé.
Non.
Yves Balu est avec nous dans Rencontre en montagne.
France Bleu, Pays de Savoie. France Bleu. FranceBleu.fr.
Historien de la montagne, mais aussi ingénieur, alpiniste, parapentiste, Yves Balu est sur France Bleu. Alors, Après avoir passé en revue les liens entre la montagne et la presse sur plusieurs siècles en rédigeant votre dernier livre, Yves Balu, comment diriez-vous que ces liens ont évolué avec le temps ?
Les journaux, ils s'adaptent. Sinon, ils ne sont pas audibles. Alors, si vous regardez avec le recul du temps, à une époque où ils ne comprenaient pas comme aujourd'hui, on se dit, c'est pas possible, comme ils ont pu gober des choses pareilles. À l'époque, on ne vérifiait pas, il fallait faire du sensationnel, parce que ça se vendait.
Mais ça marche toujours, non, le sensationnel ?
Le sensationnel marche toujours, oui. Mmh. Alors, le problème, c'est qu'il faut arriver à étonner encore. Et on a épuisé un petit peu, vous savez, le sensationnel, c'est comme le chewing-gum, quand on l'a beaucoup mâché, il a moins de goût. Et donc, il faut arriver à encore trouver quelque chose. Et en montagne, vous savez, tout a été fait. Les exploits les plus incroyables. Christophe Profi qui, en 83, gravit la faceuse des Drues en solo intégral, sans aucune assurance, en 3h10. C'est hallucinant. Ouais. Après ça, vous racontez quoi ? Que quelqu'un l'a fait en 2h50 ? Oui. Bon, mais il reste les drames, mais encore, là encore, il faut...
On l'a vu avec Elisabeth Revol,
oui,
encore...
Oui, mais Elisabeth Revol, si vous voulez, il faut quoi ? Il faut qu'il y ait un mort, au moins.
Ouais.
Il faut qu'il y ait une certaine durée. Il faut qu'il y ait une polémique. Il faut tous ces ingrédients-là. Et Elisabeth Revol, il y avait tout. Donc ça fait une bulle médiatique. Mais Elisabeth Revol, depuis, elle a gravé 8000. Personne n'en a parlé plus.
Et elle en avait fait avant, sans oxygène, etc. Et on n'en parlait
pas. Après, on n'en parle plus.
C'est triste.
C'est comme ça.
C'est comme ça.
Vous savez, les gens, on leur sert ce qu'ils aiment.
Hein. Ouais. Yves, on arrive à la fin de cette émission. C'est le questionnaire des dernières fois que je vous propose. Yves, la dernière fois que vous avez reçu un prix pour un de vos livres ?
C'était en 2017, pour le Naufrage au Mont-Blanc, la réédition chez Guérin, illustrée. Le Grand Prix des Pays du Mont-Blanc au Salon du Livre de Passy. Donc cette édition illustrée, je l'ai faite 20 ans après la première édition, parce que quand j'ai publié la première édition, Madame Vincendon notamment vivait toujours, et ça ne m'a pas semblé possible de lui imposer les photos. C'était trop dur pour elle. Donc c'est un livre sans aucune illustration. Elle est morte depuis, et donc maintenant j'ai accepté effectivement que le livre soit illustré. Donc c'est ce livre-là qui est le Grand Prix des Pays du Mont-Blanc.
La dernière fois que vous avez fait de l'escalade, Yves ?
C'était au siècle dernier.
C'est vrai ?
Oui, j'en fais plus.
La dernière fois que vous avez fait du parapente ?
C'était la semaine dernière.
Ah, toujours alors le parapente ?
Ah, toujours, oui, j'ai pas raté. Tant que je peux, j'habite à Veuret, près de Grenoble, donc il y a des sites magnifiques tout autour.
Vos dernières vacances ?
En ce moment, je suis en vacances depuis 2003, je suis en vacances tous les jours, depuis ma retraite.
La dernière sortie en montagne ?
Ah, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était au mois d'avril de cette année. J'ai participé à un trek en Himalaya. C'est un cadeau pour mon épouse, 70 ans, qui adore la randonnée. Moi, la randonnée m'ennuie. Bref, je vais lui faire un beau cadeau. Je vais lui offrir une belle randonnée, un trek en Himalaya, et avec un groupe d'amis. Et je me suis adressé à quelqu'un qui est un excellent organisateur de trek, que vos auditeurs connaissent certainement, c'est Jean Miasselin.
Vous êtes parti avec Jean-Mi.
Avec Jean-Mi, voilà. Et Jean-Mi nous a organisé un trek absolument magnifique et c'était superbe.
Le dernier film que vous avez vu au cinéma ?
Le Green Book. Magnifique sur la ségrégation aux États-Unis en 1960.
Il y a eu un Oscar, hein, le film aussi, je crois.
Il y a eu un Oscar. Ouais. Très bien fait et émouvant.
Le dernier livre que vous avez lu ?
Push, de Tommy Caldwell. C'est un livre de montagne. C'est un garçon qui est né trop tôt, qui ne pesait que 2 kilos, qui était un enfant plutôt chétif, et qui s'est découvert dans l'escalade, passion, mais aussi un talent, et qui raconte ça merveilleusement, un beau livre. Et je l'ai lu dans le cadre du Grand Prix du Salon de Passy. Je préside le jury, j'avais 25 bouquins à lire, c'est le dernier que j'ai vu.
La dernière fois que vous avez cuisiné, Yves ?
J'ai jamais cuisiné, par respect pour mes invités.
La dernière fois que vous êtes mis en colère ?
Oh, c'était bien pas longtemps. Ça vous arrive aussi, je pense, d'avoir ces coups de téléphone où vous propose l'isolation pour 1 euro symbolique et vous leur dites « je ne suis pas intéressé », ils insistent.
Ça me met en colère.
Ça me met en colère, oui.
Vous raccrochez ?
Je leur dis gentiment d'abord « votre temps est précieux, le mien aussi ». Mais ils insistent, mais écoutez-moi, etc. Ça m'énerve.
La dernière fois que vous avez dit « je t'aime », Yves Balu ?
En fait, je vais vous dire, je ne sais pas bien dire ça. Ça fait 71 ans que j'essaie de montrer à ma femme que je l'aime. Une anecdote à ce sujet. J'avais un frère que j'adorais, qui avait un an et demi plus que moi, que j'ai perdu, qui était lui aussi plutôt un peu taiseux, célibataire, etc. On s'appelait la nuit parce qu'il dormait pas trop la nuit comme moi. Et un jour, il m'a dit, tu sais que j'ai de l'amitié pour toi. Et venant de mon frère, ça m'a touché, ça m'a même bouleversé parce que c'est vraiment une déclaration d'amour. Et quand ma maman était en phase terminale, qu'on était autour d'elle, et qu'on l'accompagnait les derniers jours, maman connaissait cette histoire, j'ai dit, maman, tu sais que j'ai de l'amitié pour toi. Elle m'a dit, moi aussi. C'est une façon de dire je t'aime.
Ouais, c'est très beau. Merci beaucoup Yves Balu d'avoir accepté l'invitation. Je rappelle que votre dernier livre s'appelle La Montagne sous presse, 200 ans de drame et d'exploits, paru aux éditions du Mont Blanc. Merci.
Merci Sylvia.
Pour podcaster nos rencontres en montagne,
francebleu.fr.